VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du mercredi 12 août 2015. À la une ce soir.
Le chef de la mission de l'ONU renvoyé après des accusations de violence entre Afrique, le diplomate sénégalais Babacar Gaye, 64 ans, a remis sa démission.
En RDC, l'ONU monte au créneau et appelle à cesser immédiatement les arrestations extrajudiciaires.
Les États-Unis condamnent fermement l'attentat perpétré hier sur un marché bondé dans l'état de Borno, au Nigeria.
L'organisation État islamique déclare avoir décapité le croate enlevé en Égypte il y a 3 semaines.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le chef de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a été renvoyé après une série d'accusations d'abus sexuels contre les enfants commis par les casques bleus. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le diplomate sénégalais Babacar Gaye a remis sa démission à ma demande, a-t-il déclaré à des journalistes à New York.
Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies a aussi annoncé la nomination de l'Afghan Farid Zarif comme son représentant spécial pour le Libéria. Il succédera à Madame Karine Langdren de la Suède, qui a terminé sa mission en juillet 2015.
Le président en exercice de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État gabonais Ali Bongo, a signé un décret pour prolonger la transition politique en RCA du 18 août au 30 décembre 2015, une décision pour rassurer les autorités de Bangui qui font face à diverses contestations. Jacques Aristide.
La tension est montée d'un cran ces derniers jours dans les milieux politiques et de la société civile qui estiment que la transition a trop duré en Centrafrique. Certains ont même réclamé la démission de la présidente Catherine Samba-Panza et des deux autres têtes de la transition, reprochant de tirer profit de la situation, accusations qui ont été immédiatement rejetées. Dans son communiqué, le secrétariat général de la CEAC estime nécessaire le report de la fin de la transition afin de permettre à l'actuel gouvernement d'organiser les élections législatives et présidentielles crédibles et transparentes. Il souligne que cette décision est conforme au communiqué final de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue à N'Djamena le 25 mai dernier, autorisant cette prorogation. Les scrutins, initialement prévus en juillet dernier, étaient impossibles à tenir en raison du manque d'organisation, de matériel électoral et de l'insécurité persistante, d'après les autorités de la transition. Un émissaire du secrétaire général de la CEAC se rendra à Bangui d'ici la fin de la semaine pour rencontrer les dirigeants intérimaires du pays.
L'ONU monte au créneau en République démocratique du Congo. Elle appelle à cesser immédiatement les arrestations extrajudiciaires, estimant qu'elles nuisent à la crédibilité du processus électoral. Mardi, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'était dit très préoccupé par la disparition depuis samedi à Kinshasa de Bienvenue Matumo, l'un des militants les plus actifs du mouvement Lutte pour le changement, Lucha.
Au Burundi, la semaine dernière, la nouvelle Assemblée nationale, issue d'un scrutin controversé et boycotté par l'opposition et la société civile, a jugé donc non crédible par l'ONU, a supprimé les quotas assurant l'équilibre ethnique et de genre dans son bureau. La communauté internationale décrit une crise qui met en péril l'économie du pays et menace la stabilité régionale. Les détails avec Eric Manirakiza.
Des envoyés spéciaux de plusieurs puissances occidentales et des organisations internationales, dont l'ONU et l'Union africaine, ont préféré s'exprimer d'une même voix. Dans un communiqué conjoint, ils estiment que le régime de Bujumbura ne peut pas se permettre de continuer à plonger le pays dans l'instabilité, la division, le déclin économique extrême et la crise humanitaire. Déjà, l'une des économies les plus fragiles dans le monde, l'économie du Burundi a chuté encore ces derniers mois et montre peu de signes qu'il peut récupérer en l'absence d'une résolution de la crise politique. Les bailleurs de fonds ont clairement indiqué que leur volonté de continuer à collaborer avec le gouvernement de Bujumbura est conditionnée des progrès vers le rétablissement de références démocratiques du pays à travers un dialogue sérieux et inclusif, conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. La crise continue à se répandre dans les pays voisins de la région avec plus de 200 000 réfugiés, ont précisé les envoyés spéciaux. Ils appellent immédiatement au dialogue avec le soutien de l'East African Community, de de l'Union africaine et de l'ONU en vue de forger une nouvelle voie pour le Burundi.
Le président tchadien affirme que Boko Haram est décapité. Idriss Déby estime que le défi est maintenant d'éviter les actions terroristes dans la région du lac Tchad. Les précisions de Nicolas Pinault.
Oui, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad, Idriss Déby a affirmé que Boko Haram n'était aujourd'hui constitué que de petits groupes éparpillés dans l'est du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun. Le président tchadien assure que les différentes armées de la région sont en mesure de mettre définitivement hors d'état de nuire Boko Haram. Mieux, Idriss Déby assure que la guerre contre Boko Haram sera terminée d'ici la fin de l'année grâce à l'action de la force mixte composée de soldats du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Bénin. Le chef de l'État a également évoqué pour la première fois un successeur d'Aboubakar Shekau, présenté jusqu'alors comme le chef du groupe et qui n'est plus apparu sur les vidéos de propagande de Boko Haram depuis plusieurs mois. Il y a quelqu'un qui s'appellerait Mahamat Daoud et ce dernier veut négocier avec le gouvernement nigérian. Moi, je conseillerais de ne pas dialoguer avec un terroriste, a affirmé Idriss Déby sans fournir davantage de détails. Affaibli, les djihadistes ont néanmoins réussi à multiplier ces dernières semaines les attentats suicides meurtriers au Nigeria, au Cameroun et au Tchad.
Les États-Unis ont fermement condamné l'attentat perpétré hier sur un marché bondé dans l'état de Borno au Nigeria. L'attaque qui a tué au moins 47 personnes. Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État, John Kirby, note que l'attaque a eu lieu dans une région où Boko Haram a tué des centaines de personnes au cours des dernières semaines.
En Libye, le premier ministre du gouvernement, reconnu par toute la communauté internationale, a déclaré hier qu'il démissionnerait si cela venait à être exigé par le peuple. Abdullah Al-Tini venait de subir, lors d'une interview télévisée, des critiques acerbes des téléspectateurs mécontents des services du gouvernement. Pendant ce temps, à Genève, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye exhorte les factions belligérantes du pays à se mettre d'accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale d'ici la fin du mois.
Sur le plan sanitaire, le continent africain célèbre aujourd'hui une année sans nouveaux cas de poliomyélite. Selon l'ONU, c'est une étape importante, mais pas finale, vers l'éradication à l'échelle planétaire de cette maladie hautement contagieuse, incurable, invalidante et parfois mortelle. Selon l'AFP, le dernier cas de polio en Afrique avait été enregistré le 11 août 2014 en Somalie, alors frappé par une grave épidémie et devenu à l'époque le pays de non-endémie le plus touché au monde.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'organisation État islamique affirme avoir décapité le jeune croate travaillant pour une compagnie française enlevée en Égypte il y a 3 semaines. C'est en tout cas ce qui ressort d'une photo postée par les djihadistes sur leur site et repris par Twitter. Les détails avec Salwa Jafari.
Si ce meurtre est confirmé, Tomislav Salopek serait le premier occidental exécuté en Égypte. 31 ans, père de 2 enfants, il travaillait comme analyste sismique depuis quelques mois pour une société française. C'était son dernier jour de travail quand il a été enlevé. Les ravisseurs ont posté sur un compte Twitter une photo montrant le cadavre d'un homme, un drapeau de l'État islamique et un poignard planté dans le sable. Ils affirment qu'il s'agit de Salopek. Vendredi dernier, la branche égyptienne de l'État islamique dans la province du Sinaï avait menacé de le tuer dans les 48 heures si le Caire ne libérait pas les femmes musulmanes emprisonnées en Égypte. Le Caire a pourtant engagé une vaste campagne militaire contre le groupe terroriste de plus en plus actif dans le désert égyptien.
Plus de 60 personnes portées disparues dans le nord de la Chine après un glissement de terrain sur le site d'une compagnie minière. C'est ce que rapporte l'agence chinoise Xinhua, citée par l'AFP. Un responsable du gouvernement municipal a expliqué que le glissement de terrain survenu peu après minuit a enseveli 15 dortoirs occupés par les employés de ce site minier à Changluo.
Et toujours en Chine, la Chine qui a baissé la valeur de sa monnaie pour la deuxième journée consécutive. Hier, cette chute du yuan avait secoué les marchés mondiaux et cela pourrait accroître les tensions avec les concurrents commerciaux de Pékin. Aujourd'hui, la valeur du yuan a diminué de 1,6% après une chute de près de 2% ce mardi, ce qui était sa plus forte baisse en une seule journée dans une décennie. La Banque centrale de Chine, qui contrôle strictement la monnaie, a décrit cette chute comme étant temporaire et destiné à rendre la valeur du yuan plus orientée vers le marché.
La Grèce devrait retomber nettement en récession cette année et l'an prochain, selon des sources européennes citées par l'agence France Presse. L'économie grecque, qui n'a émergé qu'en 2014 d'une longue période de 6 ans de récession, devrait voir son produit intérieur brut replonger de 2,3% en 2015 et de 1,3% en 2016, selon ces mêmes sources citées par l'AFP. Le pays va devoir mettre en œuvre un difficile programme de réforme en échange d'une nouvelle aide internationale.
Le secrétaire d'État américain John Kerry affirme qu'il est très probable que ces courriels soient lus par les Chinois et les Russes, qui ont tous été accusés de récentes cyberattaques contre des cibles gouvernementales américaines. Les États-Unis accusent la Chine pour une série de cyberattaques contre le gouvernement et les entreprises ces dernières années. La Chine a toujours fermement démenti ces accusations.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et c'est sur VOA Africa.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bion.
La corruption est visible dans chaque secteur de la société, a estimé aujourd'hui le chef de la Cour suprême du Malawi lors d'une réunion avec des agences anticorruption, des ONG et des bailleurs de fonds internationaux organisés pour lutter contre ce fléau. Le Malawi subit encore les conséquences du Cashgate, scandale financier le plus important de son histoire qui avait entraîné le gel de 150 millions de dollars d'aide internationale réputée couvrir environ 40% du budget du Malawi. Le gouvernement burkinabé va investir quelque 24,3 milliards de francs CFA dans le réseau routier de Ouagadougou grâce à un appui d'environ 18,5 milliards de francs CFA de la Banque Ouest-Africaine de Développement, la BOAD. C'est l'entreprise burkinabé Cogeb International qui a été retenue suite à un appel d'offres international avec un délai d'exécution de 18 mois. La capitale burkinabé compte actuellement 3 échangeurs. Avec une population d'environ 2 millions d'habitants, la mobilité urbaine y est devenue un véritable casse-tête. Le Cameroun, qui compte déjà une dizaine d'agropoles, vient de s'enrichir de 2 nouveaux agropoles. Pour la production, la transformation et la commercialisation de pommes de terre et des ananas respectivement dans les localités de Mbouda à l'ouest du pays et de Nloé dans la région du littoral, a appris APA mercredi auprès du ministère de l'économie. Lancé il y a 2 ans, le programme Agropole ambitionne de réduire les déficits de production dans le secteur de l'agriculture et limiter les importations de certaines denrées alimentaires.
Merci Jean-Roger pour cette Minute Éco.
Alors vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est l'heure des sports et j'accueille Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Déjà un premier titre pour Barcelone cette saison.
Un but de Pedro en prolongation a permis au FC Barcelone de remporter la Super Coupe d'Europe hier contre Séville. Victoire 5-4 au terme d'un match spectaculaire. Il se jouait à Tbilissi en Géorgie. Messi a inscrit un doublé et Suarez a aussi marqué pour les Blaugrana qui se sont fait peur. Ils menaient 4-1 après 50 minutes de jeu. Ils ont ensuite vu fondre les Colchoneros sur eux. Les Sévillans égalisent 4 partout dans les ultimes minutes de jeu. Dans les prolongations, le Barça inscrit le but victorieux. Score final 5-4. À noter que Barcelone a déjà remporté en 2015 le triplé Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions.
Et le Barça bien placé aussi pour remporter le titre de meilleur joueur de l'année.
Oui, l'attaquant uruguayen de Barcelone, Luis Suarez, fait partie des 3 finalistes pour l'obtention du trophée du meilleur joueur UEFA de la saison 2014-2015, aux côtés de son coéquipier Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, selon la liste publiée par l'UEFA. Messi est le grandissime favori de cette 5e édition du trophée du meilleur joueur, qui sera remis le 27 août prochain à Monaco, en marge du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Messi avait déjà obtenu cette récompense en 2011, lors de la 1ère édition, avant que ne lui succèdent Andrés Iniesta en 2012, Franck Ribéry en 2013 et Cristiano Ronaldo en 2014.
En tennis, Djokovic en forme.
Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a réussi son premier match depuis son triomphe à Wimbledon en se qualifiant pour le 2e tour du Masters de Montréal face au terrible Tomas Belucci, 33e joueur mondial. Le Serbe a remporté le premier set 6-3 avant de se rendre jusqu'au jeu décisif dans la 2e manche qu'il a remporté 7-6 pour éclipser le Brésilien. Enfin, le basket tournoi de Dakar, l'équipe A du Sénégal a battu l'équipe B sénégalaise 62-51. Quant à l'équipe du Cap-Vert, elle a battu l'équipe malienne 75-44. Le Sénégal remporte le tournoi avec 3 victoires.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura et Tatiana Moto en votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour.
Plusieurs syndicats africains se sont réunis en fin juillet à Cotonou, au Bénin, pour demander le décrochage du franc CFA de l'euro, la monnaie européenne. Selon eux, cela permettrait aux États membres d'avoir plus de flexibilité pour gérer leurs économies. Parmi les participants, Bassol Mabazier, le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Burkina Faso. Écoutez-le.
Nous avons demandé le décrochage du franc CFA du trésor français parce que tout simplement, ça rentre en ligne de compte les caractéristiques principales de l'indépendance d'un pays. Et dès lors que vous n'avez pas une monnaie propre à vous-même, vous vous engagez dans une monnaie qui est déterminée et qui est reliée à une autre monnaie, notamment la monnaie du colonisateur, il y a un certain nombre de paramètres qui ne vous permettent pas d'agir en termes d'indépendance, en termes de prise de décision politique et économique à l'intérêt de vos États. Donc c'est toujours un lien de colonisation qui continue.
Mais est-ce que les États francophones ont le choix?
Le choix dans les États francophones doit être déterminé par les peuples et non forcément les politiques. Dès lors qu'on parle d'indépendance de nos pays, il revient à l'ensemble de ces peuples d'unir leurs forces, de se battre parce que la question de l'indépendance ne s'octroie pas. Elle doit s'acquérir suite à une prise de conscience profonde de ce que nous voulons pour le bien-être de nos peuples.
Mais depuis l'indépendance, on ne cesse de parler de monnaie africaine, de monnaie unique, mais est-ce que c'est possible?
C'est bel et bien possible, certes. Le chemin sera jonché de pas mal de difficultés, mais il appartient aux peuples africains de se doter de détermination, de courage. Il faut poser les bases essentielles de nous engager, de nous battre et d'avancer. Il appartiendra aux générations futures de prendre leur destinée en main et de se battre pour poursuivre.
Mais il y a l'UMOA d'un côté pour l'Afrique de l'Ouest et il y a le Naira au Nigeria. Comment est-ce qu'on va unifier, faire une monnaie unique pour l'ensemble de ces pays en Afrique de l'Ouest?
Je pense que la monnaie unique au niveau de l'ensemble de ces pays pourra bien sûr se déterminer à partir de deux pays, ensuite trois pays, ensuite quatre pays. Notre vision ne va pas s'inscrire forcément dans un démarrage systématique de façon totale à l'endroit de l'ensemble des pays africains, d'autant que nous savons très bien que ceux qui tirent intérêt à ce que les peuples africains ne soient pas véritablement indépendants ne vont pas croiser les bras et regarder. Donc il nous appartient de mener le combat et au fur et à mesure que nous allons progresser, que ce soit avec nous ou les générations à venir, il y aura une adhésion concrète et plus large des autres pays. Donc nous allons commencer par un noyau et la progression pourrait bien se faire à partir de ce noyau.
C'était le syndicaliste burkinabé Bassol Mabazier, joint à Ouagadougou par Idriss Fall.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Tension dans plusieurs quartiers de Bujumbura. Certains lieux de la capitale ont été soumis à des fouilles et perquisitions des forces de l'ordre pour la deuxième journée consécutive. Officiellement, la police indique qu'elle est à la recherche d'armes et de munitions. Les habitants, eux, commencent à trouver la situation invivable. Reportage de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Juste à l'entrée du quartier Jabé sur l'avenue de l'imprimerie, communément appelée avenue de la mort, un policier demande au taximan de garer sa voiture. Il est prié de laisser le journaliste aller à pied faire son reportage. Plus loin, d'autres policiers laissent passer gentiment le journaliste. Mais près du terrain de basket de Jabé, des hommes mariés discutent avec leurs dames. Ils ont peur de parler. Quatre jeunes gens ont été amenés hier soir par des policiers pour avoir donné une interview à un journaliste étranger. Bravant la peur, ce père de quatre enfants affirme que la vie devient difficile depuis lundi dernier.
On ne peut pas dépasser les limites du quartier, on ne peut pas franchir le marché qui est tout près du quartier. On nous a refusé de quitter le quartier. Pas d'école, on n'a pas accès au marché, on n'a pas à donner aux enfants pour manger. La vie est perturbée. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. C'est une perturbation totale de toute la situation.
Bravant la peur, ce père de quatre enfants affirme que la vie devient difficile depuis lundi dernier.
Ça a été une situation invivable depuis tôt ce matin, quand on est sorti de nos maisons, de nos portes. Vraiment, on demanderait vraiment que ce soit des choses humaine qui se fasse vraiment dans ce quartier, parce qu'il n'y a pas que Jabé qui pose problème au niveau national. Vraiment, il faut qu'on donne la paix, il faut qu'on nous laisse sortir, faire le marché. Je me suis réveillé sans quoi que ce soit, alors il me fallait sortir. On m'a encerclé depuis... Les ici dans mon quartier, j'ai pas pu vivre. Je n'ai fait que boire l'eau du robinet seulement qu'on n'a pas moi fermé. Je suis en train de courir chercher à gauche à droite où je peux trouver du beignet, mais dans les boutiques c'est pratiquement impossible de trouver un type beignet qui soit.
Mossi devait partir pour une mission à l'intérieur du pays. Comme il avait déjà reçu ses frais de mission, il ne sait pas comment il va faire pour les justifier.
Les difficultés ont été dures parce que moi-même je devais me présenter au boulot. On a été ceinturé. On ne sait pas quelle issue. On a été vraiment bloqué. Je ne sais pas comment je vais faire. On ne peut pas sortir. On est dans une situation difficile. Et les enfants ne mangent pas, et c'est tout.
Le quartier Jabé est parmi les zones de Bujumbura qui contestent le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Plusieurs jeunes qui avaient manifesté sont déjà arrêtés. La police estime que ce sont les mêmes jeunes de ces quartiers périphériques qui tirent la nuit dans la capitale avec des armes légères et lourdes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
À l'approche des élections en Côte d'Ivoire, la tension politique persiste entre les proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et ceux de l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara. Au plan sécuritaire, selon le gouvernement ivoirien, 90% des ex-combattants sont démobilisés depuis le 30 juin. La cellule de coordination de suivi et de réinsertion prend le relais pour l'avenir professionnel des ex-combattants. Écoutez son coordonnateur, Ago Christian Kodia.
Il y a la Comnat ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, qui continue son travail. Et il y a les textes et les lois qui régissent l'utilisation ou la possession d'armes à feu en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'en termes de circulation d'armes de guerre, je pense que le ratio, s'il n'est pas pratiquement revenu à zéro, doit être très, très faible.
Donc, selon vous, pour les élections d'octobre, qui sont très proches, la Côte d'Ivoire ne risquerait pas de nouvelles violences?
En tout cas, pas sur ce point-là, pas dû au fait que de circulation d'armes ou de présence d'ex-combattants. Ça se voit même déjà dans le climat habituel, les gens vont à leurs occupations, il n'y a pas vraiment de tension.
Et au niveau de certains ex-combattants qui auraient commis des violations des droits humains, qu'en est-il?
Tous les bénéficiaires que nous les traitons comme déjà des personnes civiles. Donc, nous, une fois qu'elles sont désarmées, elles sont des personnes civiles. Nous leur donnons même des notions sur les droits civiques, les droits de l'homme. Mais ça n'empêche pas que les personnes qui sont dans les liens de la justice soient poursuivies.
Combien de jeunes ex-combattants sont réinsérés aujourd'hui et que font-ils?
Il y avait déjà 58 216 personnes, soit plus de 90% qui avaient déjà été traités par la DDR. Donc les effectifs restants, c'est-à-dire ceux qui se sont présentés à la date du 30 juin, et ceux-là sont en cours de traitement par la CCSR, c'est-à-dire leur envoi dans le centre de resocialisation, et puis ensuite leur formation. On a déjà beaucoup qui sont dans le secteur du transport, dans le secteur de l'agro-pastoral, et dans d'autres activités génératrices de revenus. Mais nous insistons beaucoup plus sur la formation. Donc, presque tous nos bénéficiaires passent par une étape de formation, surtout dans les métiers du bâtiment, dans les métiers porteurs, parce qu'il y a eu une analyse de la situation économique pour que ces personnes-là bénéficient de qualifications, de compétences reconnues par l'État de Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous avez des femmes également?
Nous avons des femmes. Nous avons développé aussi des programmes spécifiques pour les femmes, pour 3000 femmes déjà, qui s'est très bien déroulé. Nous avons quelques femmes, mais je pense que le ratio est autour de 10% à peu près de femmes.
Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières dans votre travail?
La plus grande difficulté qu'on rencontre, c'est l'impatience. L'impatience, et ça, c'est à juste titre l'impatience des bénéficiaires.
Ago Christian Kodia répondait, il était joint par Nathalie Barge.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Sénégal, le directeur de cabinet du ministère du Renouveau urbain, Yatma Gueye, a affirmé mardi que, je cite, « les autorités prennent à bras le corps les inondations ». Il ajoute qu'il n'est plus question de laisser les Sénégalais être fatigués par les inondations. Eh bien, ces inondations qui, depuis le milieu des années 2000, sont devenues récurrentes à Dakar, frappent de nouveau la capitale. En 2012, elles avaient fait une vingtaine de morts et selon un décompte officiel, 400 000 personnes avaient été touchées. Rappel de Dakar, Ibrahim Afal, rédacteur en chef du site Ce n'est plus.
Ce week-end, il a plu à Dakar. Selon la météo nationale, on a enregistré 99 mm de pluie à Dakar et ça a créé des dégâts, notamment dans certains quartiers, à Wakam par exemple, où les eaux ont complètement englouti une cascade par exemple, des voitures ont disparu. Au niveau de Sacré-Cœur 3, extension, c'est un nouveau quartier de Dakar, un quartier résidentiel pas loin de la ville aussi, les populations ont été touchées. Au niveau de Grand Yoff aussi, là, c'était beaucoup plus marqué, c'était extraordinaire. Les embouteillages, les files de voitures, les populations étaient obligées de sortir de chez elles. C'était très difficile.
Étant donné que c'est un problème que l'on peut prédire, que l'on peut prévoir, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à évacuer ces eaux? Est-ce qu'il n'y a pas un système assez efficace d'évacuation des eaux au Sénégal?
D'abord, c'est vrai, il y a un problème d'infrastructure d'assainissement. Ça, c'est un problème récurrent, mais bon, il faut dire que depuis quelques années, notamment depuis 2012, hein, l'État a fait beaucoup d'efforts en investissant beaucoup de milliards dans ces infrastructures. Mais ce n'est pas suffisant, puisqu'il y a l'indiscipline des populations qui bouche les canaux d'évacuation, ce qui bloque le ruissellement des eaux. Il y a aussi le problème de la prévention, parce que les collectivités locales, au seuil de l'hivernage, doivent curer les canaux, préparer les populations, les sensibiliser. Et ce travail-là n'est pas toujours fait.
Alors, ça va aussi jusqu'à Charroy-sur-Mer, où les populations craignent des maladies à cause des cimetières qui sont inondés. Et ils demandent au gouvernement de faire quelque chose et d'urgence.
Mais oui, ben parce que imaginez des cimetières inondés avec des cadavres qui peuvent sortir, etc. Ben, on n'imagine même pas le tableau, ça va être compliqué. Bon, mais puisque la presse en a parlé, les autorités ont été sensibilisées à ça et elles savent quels peuvent être les risques en termes sanitaires, parce que bon, il ne faut pas oublier que Ebola n'est pas très loin, même si le Sénégal à présent est épargné et que la maladie a reculé dans les parties de l'Afrique qui étaient touchées. En tout cas, ils ont affirmé l'intention de prendre des mesures idoines pour qu'on n'en arrive pas à ces situations extrêmes.
Ibrahim Afal, rédacteur en chef du site Ce n'est plus, il était joint à Dakar par Idrissa Sédoudia.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur le 50e anniversaire du Voting Rights Act aux États-Unis, la loi garantissant l'accès des Africains-Américains au vote. Une victoire pour Martin Luther King. Mais 50 ans après, les minorités sont-elles toujours confrontées à des restrictions? La lutte pour le droit de vote, quelle inspiration pour l'Afrique? Que reste-t-il à faire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, c'est la fin d'encore de cette émission. Ici au micro, Tatiana Mosso et Bakassi Koura, la console technique Michel Joseph et
Micha Dobinski.
Voilà.
Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Dans un instant, un nouveau journal.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
à Dakar sur 102 FM, 91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.